France Inter.
Aujourd'hui, les animaux face à la mort, raconté par
Emmanuelle Puy-de-Bas, directrice de recherche au CNRS et au Muséum national d'histoire naturelle.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Une nuit humide s'installe sur le nord du Bengale. Entre les alignements réguliers des plantations de thé, une harde d'éléphants se fige. Au centre gît un petit corps, celui d'un éléphanteau mort prématurément. Alors se déploie une scène bouleversante, observée par les chercheurs et les ouvriers du thé. Les adultes s'approchent tour à tour, soulèvent le petit avec leur trompe, cherchent un fossé d'irrigation creusé par les hommes. Et dans cette dépression, ils déposent délicatement le corps. La tête, le dos et la trompe sont recouverts de terre. Les pattes restent dressées vers le ciel, faute de profondeur suffisante. Puis vient une longue plainte, 30 à 40 minutes de barrissement puissant comme un dernier hommage. Enfin, le groupe s'éloigne, évitant désormais ce chemin devenu sépulture. Ces enterrements d'éléphantaux documentés pour la première fois en Asie l'année dernière rappellent combien ces animaux sont sensibles à la mort. On savait déjà qu'ils caressent les ossements de leurs congénères, qu'ils restent de longues heures après des corps sans vie. Mais ici, ils vont plus loin, ils déplacent, recouvrent et transforment un fossé banal en tombe improvisée. Cette découverte scientifique résonne avec une vieille légende africaine, celle des cimetières d'éléphants, ces lieux mythiques où les pachydermes viendraient mourir ensemble. Longtemps, on a cru qu'il s'agissait d'un mythe de chasseurs, pourtant ces scènes du Bengale montrent que la mort des éléphants n'est pas seulement un fait biologique, elle s'inscrit dans leur vie sociale, elle mobilise des gestes, des attentions et une mémoire collective. Et les éléphants ne sont pas seuls, de nombreux autres animaux témoignent d'une conscience au moins sensible de la perte et du lien. La mort, même dans le monde animal, n'est jamais anonyme. Elle est souvent partagée, marquée et parfois pleurée. Et c'est cette histoire que nous allons vous raconter. Bonjour Emmanuelle Puy-de-Bas.
Bonjour Mathieu Vidard.
Vous publiez aux éditions de Lachaud et Niesley « Les oiseaux se cachent-ils pour mourir ?» C'est un livre illustré par Arnaud Raffélian dans lequel vous vous intéressez à la façon dont les animaux perçoivent la mort et ce qu'ils ont à nous apprendre à ce sujet. Car si les humains sont souvent obsédés par la mort, qu'en est-il des animaux? C'est la question que vous posez. C'est d'abord la mort de vos propres animaux domestiques, Emmanuelle Puy-de-Bas, qui vous a sensibilisé à l'expérience de la mort animale.
Alors, c'est sûr que j'ai été très tôt sensibilisée à la mort de mes animaux domestiques. J'en ai presque toujours eu, je pense. Et deux, disons, une ancienne et une récente qui résonnent particulièrement en moi. Une ancienne où c'est le cocker de ma tante avec qui je passais toutes mes vacances, tuture, pour ne pas le nommer. Quand il est mort, il a fallu abréger ses souffrances chez le vétérinaire. Et en fait, son compère, Code, qui était un petit chien qui avait grandi et vécu toute sa vie avec tuture, il n'a pas compris. Et il est parti, il a fugué. Alors, est-ce qu'il s'est laissé mourir ou est-ce qu'il est parti chercher tuture? On ne saura jamais. Mais ça a particulièrement résonné en moi parce que ça a créé une détresse, le fait qu'il n'ait pas vu ce cocker. Et d'ailleurs, ça résonne encore aujourd'hui, puisque dans les parcs zoologiques, on isole souvent les animaux qui vont mourir et on se pose la question du fait de savoir s'il ne faudrait pas les laisser mourir dans le groupe pour justement ne pas que ça perturbe ceux qui restent. Mmh. Et la deuxième anecdote qui, là, pour le coup, est très récente, c'était il y a un peu moins de 2 ans. Là, c'était une petite rate, Savonnette, que j'ai eue à la maison, la petite rate de mon fils, qui s'appelait Savonnette parce qu'on avait du mal à l'attraper. Et en fait, pour le coup, il a fallu aussi abréger ses souffrances de fin de vie. Et je vous assure que moi je suis scientifique, hein, donc j'essaye à chaque fois de raisonner, de me dire attention aux interprétations hâtives, etc., etc. Mais dans les faits, elle ne s'est jamais comportée ce jour-là comme les 2 années précédentes.
C'est-à-dire
elle s'est jamais autant accrochée à moi, elle s'est jamais autant collée à moi. J'ai eu plein de petites léchouilles, je pense, d'affection ou de crainte, je ne sais pas ce que c'était, hein, les émotions sont très difficiles, ça fait partie d'ailleurs de mes projets de recherche, de détecter et comprendre les émotions. En tout cas, elle avait un comportement très spécifique et je peux vous dire que quand il a fallu la lâcher, ça a été extrêmement compliqué pour tout le monde, hein, pour elle comme pour moi. Donc ce sont des moments, alors qu'ils ne sont pas des expériences scientifiques en tant que telles, c'est juste, entre guillemets, juste hein, du vécu, mais qui vous questionne. Mmh. Qu'est-ce qu'ils pensent ? À quoi ils pensent ?
Vous
à ce
aviez des indices sur la mort de cette rate, la Savonnette, ou pas ?
Des indices.
Bah, c'est-à-dire qu'elle était malade ou...
Ah oui, elle était malade.
C'est ça. Oui.
Elle était malade, ça faisait 2-3 jours qu'elle n'arrivait plus à se déplacer. Et voilà, le vétérinaire m'a dit qu'il faut s'arrêter là.
Ouais. En tant que scientifique, il y a une discipline qui travaille sur la mort et le deuil chez les animaux.
Oui, la thanatologie. Ouais. Ça fait gros mot comme ça.
Ouais.
C'est la thanatologie, oui. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on va dire thanatologie humaine, thanatologie animale. Enfin voilà, il y a plein de... Dans le vocabulaire, il est souvent très intéressant. C'est pas ma spécialité, mais comme si on distinguait l'étude de la mort chez les humains. Mais non, en fait, c'est pareil. Hein. Alors, c'est juste qu'on n'a pas les mêmes outils, on n'a pas la même compréhension parce qu'on ne sera jamais dans la tête des autres espèces animales. Mais c'est l'étude de la mort, point, final.
Ouais. Et on dispose de beaucoup de littérature scientifique aujourd'hui à
Alors,
ce sujet.
Alors de plus en plus.
Parce que c'est là-dessus que vous êtes basé. Il y a une abondante bibliographie d'ailleurs dans le livre.
Ah oui. Il y a 400 papiers que j'ai lus, 400 papiers scientifiques. Je peux vous dire que il y a un gros débroussaillage scientifique. Après, la difficulté, c'est de rendre utilisables des anecdotes. Ça, c'est très difficile. C'est-à-dire que vous allez avoir une anecdote, voilà, un éléphanto qui est poussé dans un trou, ou est-ce qu'il est tombé dedans ? Bon, voilà, bref. Rendre ces anecdotes, une maman hippopotame qui va remonter son bébé hippopotame mort, elle va le remonter à la surface 1 fois, 10 fois, 30 fois, peut-être en espérant qu'il va re-respirer, ou pas, on ne sait pas ce qu'elle avait derrière la tête, mais c'est des comportements qui sont anecdotiques et pourtant qui posent des sacrées questions scientifiques, mais après il y a de l'expérimentation aussi et des études sur le long terme qui permettent quand même d'avoir des bonnes idées.
On va en parler avec le risque peut-être aussi de mal interpréter les choses et
bien
de plonger dans l'anthropocentrisme, hein, c'est ce que vous dites.
Tout à fait,
anthropocentrisme. Faire très attention à la façon dont on observe et on interprète.
C'est vrai, l'anthropomorphisme aussi, mais en fait je pense qu'il n'y a pas de... Moi je ne vois pas de problème avec ça en fait. On pose des hypothèses et toutes les hypothèses sont bonnes à poser. Après la difficulté c'est comment on les teste et comment on les interprète. Et dans l'interprétation, effectivement, l'histoire des lemmings, ça fait longtemps, hein, ces histoires de lemmings, mais qui soi-disant se suicidaient. Bon,
qu'est-ce que c'est qu'un lemming ?
Les lemmings, c'est ces petits mammifères qui on pensait qu'ils se jetaient des falaises quand ils n'allaient pas bien. Je résume, je caricature un peu. En fait, c'est quand il y a des pressions territoriales, de prédateurs, de manque alimentaire, ils sont en telle quantité qu'à un moment donné, ils tombent. Voilà, c'est pas du tout du suicide. Il n'empêche que, voilà, si on ne veut pas faire d'anthropomorphisme, on dit voilà. Ouais. Il tombe, pourquoi ? Et là après, on pose des hypothèses.
La question du suicide, vous en parlez abondamment d'ailleurs, on y reviendra au cours de cette émission, Emmanuel Puy-Debat. Est-ce que les animaux comprennent la mort ? Est-ce qu'ils ont conscience de son caractère inévitable ?
Alors, est-ce qu'ils ont conscience de l'irréversibilité ? Je pense que oui. Alors, on ne va pas dire tous les animaux, hein, ce serait trop caricatural, mais je pense que pour beaucoup d'espèces, ils ont conscience qu'il y a une irréversibilité dans la mort de l'autre. Il y a suffisamment d'indices dans les réactions émotionnelles très fortes et très diversifiées qui montrent que quand il y a un congénère qui meurt, c'est pas anodin. Il y a quelque chose de très important qui se passe. Après, est-ce qu'ils ont conscience de leur propre
mort ?
Voilà, ça c'est extrêmement compliqué d'y répondre. Je ne sais pas si on aura un jour la réponse.
En tout cas, effectivement, il y a beaucoup d'indices qui laissent à penser que les animaux détectent et appréhendent la mort, quand même. Hein, c'est ce que vous nous dites. Donc, ils repèrent la mort de leur congénère, avec quoi d'ailleurs ? Quels sont les signaux qui leur permettent d'affronter cet événement particulier ?
Un des premiers signaux, c'est la mobilité. C'est comme ça aussi qu'on distingue la vie de la mort, c'est la mobilité. Ça bouge, ça vit, ça bouge pas, c'est mort. Et il y en a qui en jouent avec les histoires de thanatos, on y reviendra peut-être dans l'émission, qui font semblant d'être morts. Leur premier critère, c'est je ne bouge plus. Au fil du temps, quand un animal est décédé, il va produire des odeurs qui ne sont pas forcément détectables pour nous, en tout cas au départ, plein de signaux chimiques qui, selon les espèces, vont être détectés.
Donc des signaux olfactifs et visuels.
Exactement.
Et puis, vous rappelez que la mort, quand même, est présente partout dans la nature et qu'elle est beaucoup plus concrète que la mort des humains. Pour les animaux sauvages, c'est vraiment une réalité quotidienne.
Tout à fait, quotidienne. Ils y sont en permanence confrontés. Et c'est d'ailleurs très intéressant d'essayer de comprendre sur le plan évolutif, et là je pense qu'on n'en est qu'au début, en quoi c'est un intérêt de bien la détecter tôt, en fait. En quoi c'est intéressant pour un individu, pour survivre, de détecter la vie et la mort très tôt, parce que ça va vous permettre justement de vous prémunir des prédateurs en lien avec des émotions très importantes. La peur, c'est une émotion fondamentale. Ça, le fait d'avoir peur, ça va tout de suite déclencher des réactions et des comportements d'anti-prédation, etc.
Une vigilance.
Ouais. Une vigilance, exactement.
Emmanuel Pouydebat, vous parliez donc de ces animaux qui simulent la mort. Ça s'appelle la thanatose. On va écouter l'extrait d'un documentaire de National Geographic. C'était en juillet 2022 avec le serpent à groins.
Le lynx roux ne se laisse pas berner aussi facilement. Le serpent à groin vient d'aggraver son cas et doit trouver une autre ruse. Tel un acteur d'Hollywood, il fait le mort. Il répand même une odeur de décomposition pour mettre fin à la curiosité du lynx roux. Les grands chasseurs comme le lynx roux ont une préférence pour la viande fraîche. Mais ils semblent tentés par un serpent mort nauséabond. Le serpent le sait et déploie ses meilleurs talents d'acteur. Le lynx roux abandonne et part à la recherche d'un meilleur déjeuner.
Et il a échappé belle, le serpent, d'ailleurs, dans l'histoire, parce que ça peut être assez dangereux quand même de simuler la mort, parfois.
Ah oui, ça ne marche pas tout le temps.
Ça ne marche pas tout le temps,
mais
ouais.
ce qui est génial dans la thanatose, dans le cas des serpents, là, il y a aussi des couleuvres. Chez certaines espèces de couleuvres, ça peut aller effectivement jusqu'à des saignements, des contorsions, alors vraiment hyper impressionnantes. Et ce qui est génial, c'est que, justement, vous avez plein de types de thanatoses différentes, et c'est quel choix l'individu va faire. C'est-à-dire qu'en gros, si je reprends l'exemple des serpents chez des couleuvres, si une couleuvre attend des petits, par exemple, elle va faire la thanatose parce qu'elle a plus de difficultés à bouger en fuyant. Chez les hippocampes, les hippocampes qui vont nager vite, ils fuient, ils font pas de thanatose. Ceux qui vont nager doucement, ils vont faire la thanatose. Et s'il y a des cachettes, ils vont se planquer, ils vont pas forcément faire de la thanatose. Et ça, c'est vraiment génial dans les études qui sont assez récentes sur la thanatose, c'est de comprendre quel est le choix individuel.
Et beaucoup d'animaux le pratiquent alors
hein? Bah oui, franchement, ouais. Dans tous les groupes. Hein. Poissons, reptiles, mammifères, ouais. Oiseaux, ça existe partout.
Chez les araignées,
il y a de la thanatose.
Des araignées qui font semblant pour s'accoupler, c'est ça ?
Alors, il y a des mâles qui peuvent faire semblant d'être morts pour ne pas se faire manger par la femelle.
Ah ouais.
Ça, c'est encore des histoires d'araignées qui ne sont pas tristes. Parfois, il y a des femelles, ça existe, hein, chez les arthropodes, chez les insectes aussi, où vous avez des femelles qui, à la fin de l'accouplement, vont consommer le mâle pour la suite, pour nourrir la progéniture. Et parfois, ça peut être une idée de mâle de faire le mort. Oui.
Et est-ce que la thanatose a été observée chez les animaux domestiques ?
Parce que là, on parle quand même... Intéressant.
Est-ce qu'il y a des chiens, des chats,
alors, chiens et chats,
des rats
Là, comme ça me parle pas. Mais par contre, animaux d'élevage, ça peut. J'ai un exemple qui me vient en tête, là, c'est chez les chèvres. Des chèvres qui font de la thanatose.
Simulent la mort.
Elles vont simuler la mort. Elles se mettent, imaginez là, à quatre pattes, avec les membres hyper rigidifiés.
Ouais.
Et elles peuvent tomber comme ça, raides, par terre, pour faire semblant d'être mortes.
Ouais. La thanatose, en tout cas, c'est vrai que c'est un avantage important pour se prémunir des prédateurs et aussi pour survivre au sein des groupes, c'est ça ?
Ah mais complètement. Et ce qui est intéressant aussi ça peut être des choix individuels et ça peut être aussi des choix collectifs. On sait que chez certains insectes, la thanatose, elle est plus efficace à plusieurs que individuellement.
Ouais.
C'est vraiment la thanatose, c'est un champ de recherche à elle toute seule.
Mais vous lui consacrez une large part d'ailleurs dans ce livre. Hein.
Oui, et c'est très intéressant parce que ça fait partie des rares domaines quand on étudie le concept de la mort chez les animaux qu'on peut expérimenter avec des limites éthiques qui vont arriver parce que évidemment vous imaginez bien que pour simuler une thanatose pour étudier la thanatose, il faut simuler qu'il y a une prédation et donc que la mort est imminente donc au niveau éthique pour les animaux c'est pas terrible. Donc ça aussi c'est un vrai problème dans l'étude de la conception de la mort chez les autres animaux que nous-mêmes, c'est les limites éthiques forcément. C'est pour ça que ça prend beaucoup de temps au milieu naturel.
Ouais. En tout cas, amis auditrices et auditeurs de la Terre au Carré, si vous avez un animal domestique qui a déjà simulé la mort...
C'est pas bon signe.
Non, mais c'est intéressant, en tout cas en tant que témoignage. Ça pourrait faire l'objet d'une publication scientifique, peut-être. En tout cas, vous pouvez témoigner. Nous envoyer vos questions. On va aborder une autre question étonnante, d'ailleurs, que vous évoquez dans ce livre. C'est celle du suicide chez les animaux. Et puis vos messages sur la page de la Terre au Carré et nos réseaux sociaux, vos notes vocales avec l'application Radio France. Bon après-midi avec France Inter.
Mathieu Vidard, la Terre au carré.
Cette femelle, quand elle était presque morte, mon professeur Jan van Hoff, qui avait 80 ans à ce moment-là, il est entré dans le cage de nuit de maman. Mais elle était très faible, elle était presque morte, et lui est entré. Elle a reconnu tout de suite, là, et en fait, maman l'a rassurée. Elle a sans doute senti que lui, il était un peu nerveux, et elle essaie de le voir plus proche d'elle. Et c'est elle qui le calmait comme ça. Et tout ça s'était filmé. Et cette film était vue par 200 millions de gens. C'est devenu très connu.
Une anecdote émouvante dans la bouche de l'éthologue Franz Deval. Mmh. C'était au micro de la Grande Librairie en novembre 2018 avec François Bunel. Vous la connaissez évidemment, vous la citez même, hein, cette mama
oui.
dans votre ouvrage, cette femelle chimpanzée, Emmanuel Puy-de-Bas.
Oui, c'est magnifique et franchement, j'invite tous les auditeurs à aller voir cette vidéo, c'est extraordinaire. Et alors, c'est extraordinaire. Finalement, quand on connaît un peu les chimpanzés, c'est pas si extraordinaire que ça, mais quand on le voit, c'est forcément hyper émouvant. On voit le professeur Van Hoof, qui était le professeur de Franz Deval, quand il rentre et qu'il va voir Mama, on sent que c'est presque pour lui dire adieu, parce qu'elle est en train de mourir, hein, Mama. Et finalement, elle comprend pas qu'il est là au début, et quand elle comprend qu'il est là, elle se retourne vers lui, elle a plein de mimiques faciales, elle fait des petits gémissements d'apaisement, et c'est vrai que là où c'est lui qui finalement voulait probablement l'apaiser, là, et ben finalement c'est elle qui va l'apaiser. Et c'est extrêmement touchant, et on comprend combien il y a d'empathie chez les chimpanzés, et cette scène-là, elle est vraiment bouleversante pour ça.
Un sujet que vous abordez, un sujet glissant, c'est celui du suicide dans votre ouvrage « Les oiseaux se cachent-ils pour mourir ?» Il y a de la littérature scientifique là-dessus ou ça reste un sujet presque tabou encore ?
Alors, il y a de la littérature scientifique, mais je pense que c'est encore assez tabou. Ouais. On n'ose pas employer le mot. Et d'ailleurs, je me suis posé la question. Hein, j'emploie pas, puis après j'ai dit oui, allez, je me lance. Sachant que c'est vrai que dans l'idée du suicide, ce qui est sous-jacent, c'est qu'on a conscience de soi, on a conscience de sa vie et donc on a conscience de sa mort, puisqu'on veut interrompre cette vie-là. Néanmoins, il y a des enfants, tragiquement, qui parfois se suicident, se donnent la mort, et certains psychologues pensent qu'ils n'ont pas encore conscience de ce que c'est que vraiment, que la mort. Pardon. Donc du coup, je me suis dit, mais alors, c'est plus compliqué que ça. Donc moi, je me suis dit, faisons quand même un chapitre là-dessus, pour expliquer aux gens qu'il y a quand même des animaux qui se laissent mourir, ça arrive, hein, en milieu naturel. Alors, j'ai l'impression que c'est quand même plus une affaire de captivité que de milieu naturel, parce qu'en milieu naturel, c'est vrai qu'il y a quand même une farouche envie et besoin de survie en milieu naturel. Hein. Donc, se donner la mort, ça va vraiment à l'encontre de la survie. Néanmoins, l'exemple à Gombe de Flint, ce petit chimpanzé qui se laisse finalement dépérir après la mort de sa mère, Flo, il est quand même bon. Il fait réfléchir quand même. Mais c'est vrai que c'est peut-être plus une affaire de captivité.
Pourquoi vous avez... d'ailleurs ? Quelles seraient les raisons qui expliqueraient ça en captivité ?
Apparemment, en captivité,
l'ennui, la dépression.
L'ennui, la dépression. Il y a des animaux, quand ils sont enfermés, d'office, ils peuvent pas être heureux. Pour plein de raisons différentes. Et l'ennui en est une, effectivement. Et d'ailleurs, il y a une vaste hypocrisie, je trouve. C'est pour ça que je me suis lancée, et tant pis pour le mot suicide. C'est qu'en fait, on utilise, et il y a plein d'articles là-dessus, on utilise des modèles animaux, hein, comme on les appelle, hein, tristement. Pour comprendre certaines pathologies humaines, dont la dépression, qui peut, à un certain degré, conduire au suicide. Et paraît-il qu'il y a des très bons modèles pour ça. Mais par contre, on va pas au bout en disant, bah oui, bien sûr, ils sont dépressifs, comme nous, et c'est pour ça qu'on peut en extraire des idées pour nous. Donc, à un moment donné, il faut arrêter avec cette hypocrisie-là. Oui, ils peuvent être dépressifs. Oui, parfois, ils peuvent se laisser dépérir. Alors après, suicide, autodestruction, vous pouvez mettre le vocabulaire que vous voulez derrière. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi est-ce qu'un individu peut en arriver là, que ce soit en captivité ou en milieu naturel, parce que c'est les mécanismes qui sont hyper intéressants à comprendre.
Et vous dites au fond, ça fait partie de la démarche scientifique de poser des hypothèses, aussi scandaleuses soient-elles,
exactement,
entre guillemets, et que ça fait partie du travail. C'est-à-dire que là, on peut élaborer, justement, avancer des arguments.
Ouais. Moi, je trouve qu'un scientifique, quel que soit le domaine, doit avoir la liberté de poser n'importe quelle hypothèse. On pose une hypothèse. Après, la difficulté, c'est quel protocole scientifique je vais mettre en place pour tester cette hypothèse. Et c'est vrai que, malheureusement, il y a certaines hypothèses pour lesquelles qu'on ne pourra jamais tester, mais il ne faut pas se mettre de barrière dans les hypothèses. C'est une grosse erreur, je trouve, de faire ça.
En tout cas, même si... Il y n'y a pas de consensus encore sur cette question du suicide chez les animaux, chez les autres animaux que les humains. Mmh. Ce que vous montrez quand même, c'est que certains chercheurs suggèrent que des espèces pourraient avoir la machinerie mentale pour se suicider. Qu'est-ce que ça veut dire alors exactement?
Ça veut dire que... Alors, je vois deux grands champs. Un qui serait lié à la conscience, la conscience de soi. Il y a plein d'expériences qui montrent qu'il y a quand même une conscience d'exister. Mmh. Et la deuxième machinerie, elle serait plus physiologique et neurologique, où on sait qu'il y a des neurotransmetteurs ou des molécules dans le cerveau qui s'apparentent, qui sont quand même très très proches des nôtres quand on va jusqu'au suicide. Donc c'est une machinerie, j'ai envie de dire, un peu dans des champs de la psychologie, éthologie et aussi des neurosciences.
Est-ce que les comportements autodestructeurs, c'est pas une autre façon finalement de parler d'une forme de suicide, mais peut-être moins volontariste?
Oui, et puis surtout moins anthropomorphique. On a toujours peur de faire de l'anthropomorphisme, donc on va chercher du vocabulaire qui essaye d'être neutre pour pas remettre en cause un peu cette spécificité humaine. Mais moi, je trouve que ça freine les découvertes, moi, je trouve. Et d'ailleurs, je pense que si on a, pendant longtemps, et encore malheureusement parfois aujourd'hui, si on maltraite certains animaux, et si parfois on peut les tuer si facilement, c'est aussi parce qu'on a sous-estimé leur capacité à souffrir. Ça. Donc,
c'est la conclusion de votre livre, hein. C'est ce que vous dites d'ailleurs en conclusion.
Je pense qu'il y a un lien. Ça n'explique pas tout, mais je pense qu'il y a un lien. Il faut arrêter de sous-estimer et le choix du vocabulaire ne devrait pas être une limite.
Quelles sont les espèces qui sont connues pour leur comportement autodestructeur? Vous citez par exemple les fourmis ou les termites.
Alors là, pour le coup, utiliser le mot suicide, ce serait un peu exagéré, parce que quoique j'ai des collègues entomologistes qui se questionnent sur la conscience chez les insectes, hein, donc, et chez les invertébrés d'une manière générale. Mais en tout cas, les comportements autodestructeurs, moi, je pense par exemple à ces fourmis, chez certaines espèces de fourmis, quand les individus sont âgés, ils peuvent exploser, hein, ils peuvent s'autodétruire pour sauver la colonie, là où les plus jeunes vont se défendre des prédateurs grâce à leurs mandibules qui sont encore en pleine forme. Donc là, c'est vraiment de l'autodestruction, mais certains n'hésitent pas à parler d'altruisme, hein, c'est du sacrifice pour les autres. Néanmoins, je ne suis pas sûre qu'il y ait une vraie conscience individuelle derrière. Hein. Mais encore une fois, y a des collègues qui se questionnent sur la notion de conscience chez les invertébrés.
Il y a ce qu'on pourrait qualifier de suicide reproductif, le sort de certains mâles de mantes religieuses après la copulation, tués par la femelle plus robuste et agressive.
Bah oui, bah là c'est pareil. Alors certains pensent qu'il peut y avoir un sacrifice du mâle pour la femelle parce qu'elle va pouvoir ensuite aider ses petits au niveau nutritif. Ouais. Et puis il y en a d'autres qui justement vont avoir des stratégies pour plutôt se sauver leur peau. Hein. Et ça aussi c'est fascinant. Donc en fait quand on explore ces sujets-là, c'est la diversité qu'il y a entre les espèces et entre les individus. Et ça je l'avais sous-estimé dans ce domaine-là.
Alors vous parlez d'auto-cannibalisme chez les poulpes.
Ah oui,
l'auto-cannibalisme, c'est se manger soi-même.
Se manger soi-même, alors oui, alors c'est pas hyper fréquent non plus.
Oui. Hein.
Et chez les poulpes, d'ailleurs, il y a des comportements qui sont même encore plus surprenants. On a découvert il y a pas très longtemps que certains poulpes pouvaient recouvrir des cadavres de certains débris qu'ils trouvent au fond de l'eau. Mmh. Et ça soulève une autre question, c'est la notion de compréhension de la mort en lien avec les comportements sociaux. C'est-à-dire qu'on a longtemps pensé que c'était qu'une affaire d'animaux sociaux, mais les poulpes sont relativement solitaires, bien qu'on a découvert il n'y a pas si longtemps,
des
Octopoli,
cités, hein,
exactement.
Des grandes cités sous-marines.
Des grandes cités chez certaines espèces. Donc c'est ce qui montre qu'il faut continuer à explorer et pas de sujet tabou. Quoi.
En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que vous mettez beaucoup de prudence quand même dans
vos
propos,
il faut.
Hein, au
c'est
sujet
normal.
Du suicide. Autre question abordée dans votre livre, celle des rites funéraires. Le mot funérailles, on peut l'utiliser pour certaines espèces?
Moi, j'aime bien bousculer les idées reçues.
Oui,
ça
vous
fait
êtes
réfléchir.
Un peu provoque, ouais.
Voilà, je suis un peu provoque.
C'est
parce
pour ça qu'on vous aime bien.
Sinon, je trouve qu'on n'avance pas. Et tant pis pour la critique. À un moment donné, alors, est-ce que ce sont des rites funéraires au sens où nous on l'entend? Probablement pas. On n'est pas dans leur tête. Ils sont pas dans le même monde, etc. Néanmoins, on peut pas s'empêcher de comparer avec nous. Moi, je suis navrée, mais je me réveille pas orang-outan quand je travaille sur les orang-outans. Je reste une pauvre humaine qui essaye de comprendre comme elle peut les autres espèces. Les rites funéraires, pour moi, c'est, et pour d'autres, c'est des comportements qui vont être spécifiques à la mort d'un congénère.
Ouais.
Chez les corneilles, c'est flagrant. Et puis, pour l'avoir vécu une fois, c'est hyper impressionnant. Mmh. Ça va crier. très très fort. Parfois, elles vont mettre des plumes, des petites branches, de la terre sur le cadavre. Alors, ça a peut-être des vertus prophylaxiques. Hein. C'est peut-être, entre guillemets, juste pour évacuer, pour potentiellement se prémunir des bactéries, etc., etc. Néanmoins, ça déclenche des comportements extrêmement fort. Vous parliez des éléphants au début. Les éléphants peuvent revenir tous les ans à la même heure à un endroit où un congénère est mort ou quelqu'un voilà, d'important, entre guillemets, pour eux est mort, jour pour jour, tous les ans, pendant 2-3 ans des fois. Hein. Et ils vont toucher les squelettes, ils vont parfois les recouvrir. Enfin, bon, voilà. Alors, rituel funéraire au sens humain du terme, je suis assez d'accord, ça n'a pas vraiment de sens. Néanmoins, ce sont des comportements atypiques ou qui sont spécifiques à la mort d'un congénère.
Vous dites beaucoup chez les insectes, pour des raisons précises d'ailleurs, précisément ce que vous disiez, pour se protéger des maladies potentielles liées aux cadavres.
Exactement. Ouais. Chez les fourmis, on appelle ça la nécrophorèse, ouais. Un grand mot compliqué, mais en fait, effectivement, vous allez avoir des individus qui vont être spécialisés, disons, dans l'évacuation des cadavres. Ils vont les sortir de la colonie, ça peut faire des cimetières de fourmis, donc pas de cimetière d'éléphants, mais cimetière de fourmis, ça peut. Et effectivement,
c'est une question d'hygiène.
Oui, exactement.
Et de survie aussi, d'ailleurs.
Exactement.
Pour vivre dans un environnement sain.
Tout à fait.
Donc la nécrophorèse.
C'est ça.
Ce comportement qu'on retrouve chez plusieurs espèces animales.
Oui.
On évoquera d'autres rites funéraires avec vous dans un instant, Emmanuel Puy-de-Bas, et puis vous répondrez bien sûr aux questions, aux témoignages, certainement, de nos auditeurs et auditrices. Vous nous rejoignez sur la page de l'émission et nos réseaux sociaux.
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
J'ai vu des corneilles commencer à s'amasser au-dessus d'un arbre en criant, toutes en groupe. Et donc je suis allée voir au pied de cet arbre et effectivement il y avait l'un de leurs congénères qui était mort. J'ai prélevé ce cadavre pour aller le porter un petit peu plus loin, le mettre en sécurité. Il se trouve que les corneilles, effectivement, en revoyant leur congénère, le cadavre de cette corneille, se sont mises de nouveau à crier et à s'amasser autour du cadavre en criant.
Extrait de l'émission La Science CQFD sur France Culture en septembre 2024, un reportage de Céline Louzen. Vous en parliez tout à l'heure, Emmanuel Puy-de-Bas, vous qui êtes notre invité pour évoquer la mort et les animaux, justement, face à la mort avec votre livre Les oiseaux se cachent-ils pour mourir? On a donc observé des comportements qui pourraient faire penser à des rites funéraires dans les airs, dans tous les milieux d'ailleurs, vous le dites, mais dans les airs, oui.
Oui, tout à fait, dans les airs, il y en a. Et là, l'exemple des corneilles, il est vraiment frappant. Après, moi, ce que je trouve aussi hyper intéressant au travers les études qui ont été faites là-dessus, c'est les différentes réactions entre les individus. C'est-à-dire que, pour là où on parlait des corneilles, chez les chimpanzés, un individu qui tombe d'un arbre, ça peut donner, en milieu naturel, ça peut donner lieu à des individus qui vont s'isoler, d'autres qui vont être agressifs envers le cadavre, d'autres qui vont apporter du soin au cadavre. Et ça, c'est super intéressant. Pourquoi ces réactions différentielles? Est-ce que c'est en lien avec le lien de parenté entre les individus et celui qui est mort? Des fois oui, des fois non. Est-ce que c'est en lien avec leur histoire de vie, ce qu'ils ont partagé pendant leur vie? Est-ce que c'est lié à la saison? J'en sais rien. Ça, il y a vraiment des belles hypothèses à tester.
Est-ce qu'il n'y a pas d'ailleurs de la part de nous, humains et humaines, un biais dès le départ qui fait qu'on accorde une telle valeur à la vie en général, qu'il nous est quasiment impossible d'imaginer que pour d'autres espèces, finalement, la vie soit très peu de choses. On vous parliait tout à l'heure de cette fourmi qui se fait exploser pour protéger sa colonie.
Ça se trouve.
Peut-être que la vie, elle s'en fout complètement.
C'est ça, ça se trouve, c'est pas un souci pour elle.
Ouais.
Mais probablement. Et d'ailleurs, c'est presque un sujet. Enfin, c'est un sujet philosophique et anthropologique aussi. Hein. Ce serait un beau projet interdisciplinaire. J'appelle les collègues.
Ouais.
Parce qu'en fait, en fonction des populations humaines, de nos éducations, et puis bien sûr, des endroits dans le monde où on a grandi, on n'a pas la même vision de la vie et de la mort. Hein. Donc ce serait super intéressant de comparer justement d'un point de vue purement anthropologique cette vision de la vie et de la mort. Et puis au niveau philosophique aussi. Moi j'ai commencé à lire un peu des articles en philosophie, c'est pas mon domaine, mais j'en ai lu quand même. Et c'est hyper intéressant. Et là vous avez des avis très divergents aussi. Donc c'est très riche, il y a plein de questions encore à poser.
Et alors cette question que vous posez en titre, les oiseaux se cachent-ils pour mourir? Célèbre expression d'ailleurs, vous avez la réponse ou pas?
Alors, a priori, de toute façon, qu'on soit un oiseau ou pas, en général, quand on va mourir, on se cache en milieu naturel. Hein, parce que quand on est sur le point de mourir, on est une proie facile, donc on se cache.
Ouais.
Après, pourquoi les oiseaux et pourquoi cette expression-là? C'est parce que dans notre vie quotidienne, c'est probablement les animaux qu'on voit le plus. Donc, comme on les voit le plus, quand ils vont mourir, on les voit plus. Donc, on s'est posé la question par rapport à ça, mais a priori, tous les animaux qui vont pas bien se cachent.
Est-ce qu'on peut dire que certains animaux pleurent leur mort, Emmanuel Puy-de-Bas?
Alors, pleurer leur mort, encore une fois, ça va être des indices indirects. Quand vous avez une maman éléphant ou une maman chimpanzé qui va traîner le cadavre de son bébé pendant des jours, voire des semaines, voire des mois. On a un cas chez les chimpanzés, Pomme, qui a promené son bébé décédé pendant 6 mois. Il était quasiment fossilisé. Ce sont des indices indirects qui montrent que, voilà, j'ai appelé ça l'impossible séparation. Il y a plein de cas comme ça, hein, chez otaries, hippopotames, orques, il y a beaucoup dauphins, il y a beaucoup de mamans qui ont fait ça avec leurs petits. Donc oui, puis vous allez avoir, je parlais de Flint tout à l'heure, des individus qui vont arrêter de manger, qui vont gémir, qui vont s'isoler alors qu'ils étaient avant bien dans le groupe social. Donc il y a plein d'indices qui montrent qu'il y a une tristesse, oui.
Les hippopotames sont capables de chagrin.
Ah oui, les hippopotames. Il y a cet exemple-là, et une biologiste d'ailleurs qui travaillait sur les hippopotames le disait très bien. Une maman hippopotame qui n'arrêtait pas de remonter son bébé décédé à la surface. Elle a fait ça, mais pendant des heures et des heures, pour être sûre qu'il était mort et qu'il n'allait pas revivre, entre guillemets.
Vous citez les pécaris. À quoi ressemblent ces mammifères ?
Ça ressemble à des sangliers.
D'accord.
On va dire. Ouais.
Et alors, qu'est-ce qui se passe chez les pécaris ? Est-ce qu'ils pleurent leurs congénères ?
Alors, chez les pécaris, c'est pareil. Vous pouvez avoir des réactions très différentes, mais il peut y avoir des réactions très fortes. Quand vous avez un individu qui meurt, vous allez avoir des autres individus qui vont se rassembler près du cadavre, le renifler, le toucher. Enfin, on sent que ça occasionne des comportements qui n'existent pas en dehors de la mort, quoi.
Dans les océans aussi, on peut parler de funérailles dans certains cas ?
Alors, de funérailles, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, dans les océans aussi, la mort interpelle beaucoup les congénères. Je parlais de mamans qui ont du mal à se séparer du bébé. Chez les orques, il y a beaucoup d'exemples, dont un qui est fameux, hein, une maman de Taleka qui a promené son bébé pendant des dizaines de jours. Impossible de s'en séparer. Vous allez avoir, quand un individu meurt, vous allez avoir des rassemblements. Et d'ailleurs, des fois aussi, des comportements soit agressifs, soit protecteur, hein, chez les otaries par exemple, il peut y avoir une protection du cadavre contre les prédateurs. Donc c'est encore une fois très diversifié.
Nous partons en Chine à la découverte des rhinopithèques. C'est un petit primate, c'est ça ?
Oui.
Qui peut être de différentes couleurs, mais jaune
oui,
parfois.
Oui, jaune-roux, oui.
Ouais, avec des grosses lèvres. On écoute cet extrait d'un reportage de National Geographic.
En Chine, au printemps, dès que la pluie tombe sur les forêts d'altitude, le thermomètre fait une chute libre. La fourrure de la petite n'est pas encore assez épaisse pour la protéger du froid et de l'humidité. Si elle reste exposée aux éléments, elle risque une hypothermie mortelle. La tragédie a fini par frapper. Cette mère tient son bébé sans vie serré contre elle. Ses proches viennent la consoler. Elle préfère s'isoler. La mort n'est pas anodine chez le rhinopithèque. Cette mère a besoin de faire son deuil.
Avec ces singes qui semblent comprendre ce qu'est la mort, Emmanuel Puy-de-Bas ?
Oui, je pense que c'est raisonnable de penser qu'ils comprennent que pour leurs congénères, il y a une irréversibilité et qu'ils ne le reverront pas. Et c'est ce qui rend la séparation compliquée et triste, avec des individus, comme dans cet exemple-là, qui vont avoir besoin de s'isoler pour récupérer émotionnellement. Après, comment on le quantifie, ça c'est autre chose. Mais il y a quand même suffisamment d'observations comme ça, comportementales, après le décès d'un proche, pour que ces hypothèses-là se tiennent la route, quoi.
Allez, on va passer aux questions et aux témoignages, parce que elles et ils sont très nombreux. Et nous avons Marie, par exemple, qui nous a envoyé ce petit message vocal que je vous propose d'écouter tout de suite, Emmanuel Puy-de-Bas.
J'avais une mésange morte sur mon balcon. J'ai vu une de ses congénères venir, la retourner. Et comme il ne se passait rien, elle est allée chercher une autre mésange. Ce qui fait qu'il y avait deux mésanges qui essayaient de retourner la pauvre mésange morte et qui sont partis désespérés, apparemment.
Merci Marie pour votre témoignage, Emmanuel Puy-de-Bas.
Merci, c'est joli. Je suis pas étonnée. J'avais jamais entendu cet exemple-là, mais je suis pas très étonnée dans le sens où les mésanges coopèrent beaucoup. Sont des animaux sociaux hyper intelligents, très coopératifs, et il y a de l'empathie aussi chez les mésanges. Et elles sont probablement venues s'assurer que leur congénère était décédé pour éventuellement la ranimer s'il y avait encore quelque chose à faire. Ça peut arriver qu'un oiseau il se heurte à une fenêtre et qu'en fait il soit juste sonné. Hein. Ça nous est arrivé à beaucoup. Donc voilà, elles sont probablement venues s'assurer que il n'y avait plus rien à faire, comme on dit chez nous.
Linda nous dit, un de mes chats s'est laissé mourir après la mort de sa mère, après la mort de Rasta, qui a développé une maladie des reins dont il est mort. Y a-t-il un rapport ou pas ? En tout cas, c'est troublant, dit-elle.
Qu'il se soit laissé mourir ?
Ouais.
Il y a plein d'exemples. Il y a plein d'exemples où quand il y a un frère, une sœur ou un individu, comme mon exemple de Tutur et Code, des individus qui ont grandi ensemble, quand il y en a un qui meurt, l'autre peut se laisser mourir parce que quelque part, probablement que c'est plus la vie comme il la concevait avant. Après, je suis pas dans leur tête, mais en tout cas, c'est une détresse suffisante pour ne plus assouvir leurs besoins fondamentaux.
Gaëlle nous dit, est-ce que la conception de la mort ou la thanatose, on en parlait tout à l'heure, le fait de simuler, est attribué à un réflexe ou à une conscience? En particulier chez les insectes.
Alors ça, c'est très intéressant. C'est déblayer toujours la part entre la génétique et l'apprentissage. Alors, ouais. Génétique, ça c'est sûr. Hein, de toute façon, il y a toujours un terrain génétique. Donc ça, on ne peut pas se tromper. Après, ce que je trouve, pour essayer de répondre à votre question, je dirais qu'il y a, pour certaines espèces, tellement de variabilité entre les individus que je pense qu'il y a une partie d'apprentissage. C'est-à-dire, quelle est la meilleure solution en fonction du contexte. J'ai une cachette, je vais me planquer. J'ai pas de cachette, je fais la thanatose. Je caricature énorme. Hein. Mais il y a des individus qui ne vont pas faire les mêmes choix. Donc à partir du moment où ils font pas les mêmes choix, c'est que je pense qu'on peut pas tout attribuer à la génétique. Donc oui, il y a de la génétique, oui, il y a de l'inné, mais il y a sûrement aussi de l'apprentissage et il faut encore décortiquer tout ça.
On posait la question tout à l'heure donc de la simulation de la mort chez les animaux domestiques. Vous me disiez ne pas connaître d'exemple particulier. Cécile, qui nous écoute, nous envoie ce témoignage.
Bonjour. Ma belle-mère avait un chien qui simulait sa mort à chaque fois qu'il était en état de stress et il le faisait assez régulièrement. Voilà, bonne journée.
Alors, il faudrait étudier le chien de Cécile ou de sa maman.
C'est vrai que des fois, il y a un mécanisme, pour le coup, on parlait de génétique juste avant, très automatisé, qui est « j'ai peur, je thanatose ». Je caricature un peu, c'est plus compliqué que ça, mais il y a un peu de ça. Donc effectivement, c'est un peu ancré, c'est peut-être ancré au niveau évolutif, voilà, « j'ai très peur, je thanatose ». Je caricature un peu, auquel cas, là, pour le coup, il n'y avait pas une fonction, enfin, il y a une fonction de survie dans sa tête à lui, mais qui n'était pas dans le contexte, qui n'était pas nécessaire, mais probablement quelque chose d'ancré génétiquement, c'est intéressant.
On a un autre message, toujours autour de la thanatose, décidément, vous aurez quasiment pu faire un livre uniquement là-dessus, c'est le message et le témoignage de Nathalie.
Bonjour, je m'appelle Nathalie, j'habite Paris. Je voulais juste vous parler de cet épisode d'un animal domestique qui a fait une thanatose. Cette calopsite était derrière une fenêtre chez ma mère, et au passage d'une corneille, elle s'est jetée sur le dos au fond de sa cage, mimant sa mort, sans doute effrayée par ce prédateur. Voilà.
Ah oui. Emmanuel Puy-de-Bas.
Ah oui, mais les corneilles, elles peuvent faire très peur, hein, y compris toute la famille des perroquets, les psittacidés, donc dont les calopsites font partie. Donc bah voilà, elle a fait un choix. C'est-à-dire, soit elle a eu très peur et de manière entre guillemets automatique, elle est tombée sur le dos. Oui. Soit c'est parfois des choix délibérés. Si ce potentiel prédateur s'est présenté devant elle plusieurs fois.
Annick nous dit deux exemples. Un exemple, mon chat jouait dans l'herbe avec une grenouille. J'ai cru qu'il l'avait blessée, mais pas du tout. Elle s'est laissée prendre dans mes mains comme morte. Et lorsque je l'ai déposée à un endroit où elle serait à l'abri, elle a gaillardement sauté plus loin. Ouais. Ça, chez les amphibiens,
tout
c'est
à fait.
Assez,
il y a plein d'amphibiens
assez
qui
commun,
font ça.
Hein.
Tout à fait.
Nathalie témoigne, un cheval allongé au sol car décédé, l'autre cheval s'est couché en parallèle dans la même position comme si il était mort. Ce moment a duré 5 minutes, j'ai eu les larmes aux yeux en vous le relatant d'ailleurs. Avait-elle compris la mort de son compagnon?
Ouais, on ne le saura jamais, mais en tout cas ce qu'elle a compris, c'est qu'il y avait quelque chose d'inhabituel, ça c'est sûr.
Ouais. Martial nous dit, à l'époque, je n'ai pas pensé à la thanatose, bien sûr, j'avais 28 ans, je travaillais chez un éleveur de brebis, et un soir le troupeau s'est échappé, j'ai réussi à toutes les ramener, sauf une seule, après laquelle j'ai couru pendant longtemps. Après pas mal de temps, elle s'est écroulée par terre, n'a plus bougé, ce qui m'a permis de la ramener sur mon dos. Elle m'a chié dessus pendant tout le trajet, précise-t-il. Le lendemain, l'éleveur m'a dit que ça n'était pas la fatigue, mais de la peur. Je ne sais qu'en penser. Ça rejoint tous les témoignages qu'on a sur le stress. Hein.
Mais complètement. Et ce qui est rigolo, c'est que dans ce troupeau-là, il n'y en a qu'une qui l'a fait. Ça, c'est intéressant.
Ouais.
Pourquoi est-ce que c'est la seule qui a fait ça?
Mon chat a su bien faire le mort pour résoudre le fait que pour lui donner une pilule contre le coryza, je l'avais roulé dans une couverture afin de lui faire avaler le cachet. Une fois libéré, il est parti dignement au cœur. Voilà, donc il se passe plein de choses chez nos animaux domestiques. Emmanuel Puy-de-Bas, merci beaucoup d'être venu nous en parler. Je voudrais vraiment saluer votre dessinateur.
Ah là là, quelle merveille,
Arnaud Raphaëlian.
Exactement.
Parce qu'il permet de beaucoup rire pendant la lecture de ce livre.
Tout
et ça fait du bien, ça
c'est
équilibre.
C'est pas un livre triste, hein. J'ai essayé de mettre de la légèreté aussi à beaucoup d'endroits. Et grâce à Arnaud, je pense qu'on a réussi notre pari.
Absolument, je confirme. Les animaux et la mort, les oiseaux se cachent-ils pour mourir? C'est aux éditions Delachaux et Nestlé. Merci beaucoup,
Emmanuel
Puy-de-Bas. Merci beaucoup.